comme ça.
Je t'approche de plus facilement.
Bonjour. M'entendez-vous bien si je parle comme ça?
Oui.
OK. Je vais essayer de garder la bonne distance. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Alors, pour la personne qui ne me connaît pas, je suis Martin Laflamme. J'aime dire que je viens de la Beauce, parce que c'est le plus beau coin du pays. Je ne savais pas ça. Alors, c'est ma plus grande qualité, je viens de la Beauce. Une famille de 11 enfants, je suis prêtre depuis 27 ans, je travaille comme psychologue au Grand Séminaire et au Diocèse, mais là où je suis plus fier d'être, c'est avec l'Arche de Jean Vanier à Québec depuis une quinzaine d'années. Puis à quoi il partage, comme disait Jean-Claude, ça fait belle lurette que j'ai à peu près une fois par année. J'aimerais commencer notre rencontre ce matin en lisant, en prenant le temps de lire la parole de Dieu. D'abord, c'est la parole de Dieu qui nous rassemble, alors prenons le temps de l'écouter. Je vais lire tout le passage lentement, parce que chaque mot de ce passage est important. Jésus, la vraie vigne. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne produit pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui produit du fruit, il l'émonde, afin qu'il en produise davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là produira du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit en abondance, et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. La dernière rencontre de foi et partage nous rappelait que Jésus est la parole de Dieu semée sur terre, semée en nos cœurs. En venant sur terre, Dieu, par Jésus, prenait le corps d'un être humain. Et depuis ce temps, la parole de Dieu, le cœur de Dieu, habite chaque corps humain, chaque cœur humain. En s'incarnant, Dieu nous disait que chaque être humain a une valeur infinie et que la parole de Dieu habite le cœur et le corps de chaque personne. Et l'incarnation se poursuit. Dans notre cœur et notre corps, nous continuons à être la parole de Dieu sur terre. La sève du cœur de Dieu, la sève de l'amour de Dieu, la sève de la parole de Dieu habite et circule dans chaque être humain, parce que Dieu a créé chaque être humain à son image et à sa ressemblance. Que nous soyons hindous, bouddhistes, athées, que nous soyons québécois, anglais, allemands, que nous soyons intelligents, moins intelligents, malades ou en santé, jeunes ou vieux, notre foi chrétienne nous dit que la sève de Dieu habite le cœur humain. Que nous sachions ou pas, que nous le rejetions ou pas, le cœur de Dieu habite chaque être humain. Mais ce que nous voyons de l'être humain, ce n'est pas toujours son cœur. Et il y a plein d'obstacles entre ce qui habite le cœur humain et ce que nous pouvons voir ou recevoir ou donner. Cette semaine, j'écoutais un reportage à Radio-Galilée qui nous parlait d'un médecin français, je crois, qui travaille auprès des sans-abri. Les SDF, qu'ils appellent, les sans-domicile fixe en France. Il disait comment, en se faisant proche des personnes les plus rejetées de la société, en prenant le temps et de la patience et beaucoup d'amour, il réussissait à voir dans la personne qui pue, qu'on rejette, mal habillé, il réussissait à voir à travers et par-dessus tout cela le mystère de Dieu, la sève de Dieu, l'amour de Dieu. À travers ce qu'il y avait de plus rejetant, de plus méprisé, par son regard, il pouvait voir le cœur de Dieu battre dans cette personne-là, qui à prime abord était très violente, agressive et rejetante parce que blessée. Il réussissait à montrer à cette personne-là sa beauté, la sève de Dieu qui coulait en elle. Comment montrer à quelqu'un qu'il porte en lui la sève de Dieu? Comment, comme dit Saint Jean, nous aimer les uns les autres? Comment faire en sorte que la sève qui coule en nous puisse permettre à l'autre de voir la sève qui coule en lui? Comment l'amour qui coule en nous, qui vibre en nous, peut éveiller chez l'autre une petite lumière d'amour? Et comment recevoir de l'autre l'amour et comment se nourrir de la sève de l'amour de l'autre pour que cette sève-là fasse aussi bouger la sève d'amour en nous. Comment faire ça? Je nous propose une piste toute simple. Quand je vous regarde, quand je vous écoute, quand je vous touche, je peux le faire parce que vous avez un corps. Si vous pouvez me voir, m'entendre et me toucher, c'est parce que j'ai un corps. Je ne suis pas un ange. Je suis assis sur une chaise, sur mon bassin, je suis appuyé sur mes coudes, je vous parle avec ma bouche et vous m'entendez avec vos oreilles. On n'est pas des anges. On a un corps. Dieu nous a donné un corps. Parfois qu'on aime, parfois qu'on aime moins, mais on a un corps malgré tout. Et c'est par ce corps que nous pouvons montrer la sève qui est en nous. Je vais prendre quelques exemples très concrets. D'abord, nos yeux. Nos yeux parlent beaucoup. On peut voir l'humeur de quelqu'un par ses yeux. On peut voir si quelqu'un est triste dans son regard. On peut voir si quelqu'un est choqué dans son regard. On peut voir l'amour de quelqu'un dans son regard. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Nos yeux parlent. Il y a toutes sortes de regards. On peut même dire que dans la vie, on découvre notre importance par le regard que les autres ont porté et portent sur nous. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent de ne pas avoir été vus et regarder. Des gens qui ont vécu comme s'ils étaient des meubles dans la maison ou des pots de fleurs sur une table. On ne les a pas vus. On ne les a pas regardés. C'est comme s'ils n'existaient pas. D'autres ont subi des regards méprisants, haineux, rejetants. Un regard qui faisait en sorte qu'on ne se sentait même pas humain. Des gens ont vécu avec des regards comme ça, des regards de mépris. Et d'autres ont vécu avec des regards de tendresse et d'amour. Un regard plein de vie, un regard affectueux. Un regard accueillant donne la vie, permet à l'autre de se sentir beau et grand lorsqu'il est bien regardé. Vous avez sûrement vécu l'expérience de vous faire serrer la main par quelqu'un qui ne vous regarde pas. C'est triste, il y a un contact qui manque. C'est comme si on n'existait pas. Quand je donne la communion, j'essaie toujours de regarder la personne à qui je donne la communion. La communion, ça se passe entre deux personnes, et ce geste-là est un geste très profond, c'est un geste mystérieux, sacramentel, un geste de communion. Mais la communion, c'est pas juste entre l'hostie et les mains de la personne ou sa langue. La communion, c'est entre deux êtres humains qui sont unis par le Christ. Et le regard de la communion manifeste, signifie la communion entre le Christ et nous. Le regard. Après avoir créé le monde, Dieu s'est arrêté, a regardé le monde Il a dit, cela est très beau, cela est très bon. Un regard d'émerveillement sur le monde. Pour nous inviter à poser les uns sur les autres un regard d'émerveillement, pour éveiller la vie chez celui ou celle qui est regardé. C'est comme ça que Jésus regardait les gens. Jésus regarda Pierre, et Pierre s'est mis à pleurer tellement il s'est senti aimé. Jésus regardait la Samaritaine, il regardait Zachée, il regardait les gens, il touchait leur cœur par son regard d'amour, il faisait bouger la sève en eux pour que la sève continue à circuler, parce que les blessures sont souvent, provoquent souvent des arrêts dans la circulation de la sève, empêchent la sève de bouger. Et l'amour permet à la sève de continuer à bouger, de continuer à circuler dans l'autre et à produire du fruit en l'autre. Un regard, ça fait du bien. Et parfois et souvent, un regard met en mouvement. J'ai été surpris de relire l'Évangile du bon Samaritain. Juste quelques mots. Je ne lirai pas tout, juste quelques phrases. Il se trouva un prêtre descendant par ce chemin. Il vit l'homme et passa à distance. Un Lévite de même arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa à distance. Mais un Samaritain, qui est en voyage près de l'homme, arriva près de l'homme. Il le vit, il fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et on sait le reste. On peut voir et passer droit. Ça m'est arrivé l'autre fois. J'étais dans mon auto, je m'en allais travailler, j'étais pressé. J'étais à un stop, puis une dame qui passe devant moi en auto, puis elle me fait comme ça. Du camp a vu fumer. Fait que là, je n'ai pas donné d'argent. Mais après, je me disais, peut-être qu'elle avait faim. J'ai passé la journée à y penser. Je l'ai vu comme un bon prêtre, et j'ai passé droite. C'est comme dans la journée que mon cœur a été touché, que j'y ai repensé. On peut voir et passer droite. Et on peut aussi voir et être touché. Voir et être touché de compassion et être mis en mouvement pour prendre soin. Et c'est là où la sève coule et qu'elle alimente la sève de l'autre, alimente la présence de Dieu en l'autre. S'approcher de quelqu'un avec compassion, c'est lui dire « t'es importante et tu portes en toi une sève extraordinaire qui ne mérite, qui ne veut que circuler ». Dans Matthieu 25, dans le jugement dernier, c'est aussi ce qu'on dit. Quelques phrases de ce passage. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, de te voir assoiffé et de te donner à boire, de te voir étranger et de t'accueillir. Voir, regarder. Comme premier moyen pour se rapprocher de l'autre, d'abord le voir, être attentif, poser le regard et voir dans ceux et celles qui nous entourent, par nos yeux, qui a besoin Qui est seul? Qui est dans le groupe à qui personne ne parle? Qui est assis dans son coin et qui semble isolé? Qui semble triste? Le voir et s'approcher. C'est comme ça que la sève circule en nous. C'est comme ça qu'on s'aime les uns les autres. Le regard. Mais on est fait aussi avec deux oreilles et une bouche. Notre corps a aussi deux oreilles et une bouche. L'autre fois à l'Arche, on parlait de ça, puis j'avais sorti un grand carton sur lequel quelqu'un m'avait dessiné deux oreilles et une bouche. Et je demandais aux gens, qu'est-ce que vous voyez? Et on dit deux oreilles et une bouche. Est-ce qu'il y a plus d'oreilles ou s'il y a plus de bouche? Il y a plus d'oreilles. Il y a un proverbe qui dit qu'on a deux fois plus d'oreilles que de bouche pour écouter deux fois plus qu'on parle. L'écoute. C'est tellement important, l'écoute. C'est important parce que on ne peut pas ne pas parler. L'autre ne peut pas ne pas parler. Même assis devant moi, comme vous l'êtes maintenant, vous parlez. Votre attitude parle. Votre position parle. Vos regards parlent. À l'Arche, il y a deux personnes handicapées, William et Véronique. William qui ne parle pas, n'entend pas et ne voit pas. Puis Véronique qui entend, mais qui voit très peu, puis qui parle pratiquement pas. Elles sont pour moi deux exemples de personnes qui parlent tout le temps quand même. La parole, c'est pas juste la bouche, la parole, c'est tout notre être qui parle. On parle constamment. Et si on parle, d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'on a un profond désir d'être en relation. Même quand on dit « passe-moi le sel », « où t'as mis mon chandail »,« as-tu lavé ma chemise », même quand on dit ça, on veut être en relation. Parler d'une manière ou d'une autre, c'est pour être en relation. On est créé pour être en relation et la relation est faite pour la communion. Mais c'est difficile de parler. C'est difficile parce que quand on parle, on se révèle. C'est à force de parler que vous me connaissez. Et plus je me révèle à vous, plus on se révèle à quelqu'un, plus on prend un risque. Le risque d'être rejeté. Parce que tant que je n'ai pas dit un mot, tant que je n'ai pas posé un geste, vous ne savez rien de moi. Mais aussitôt que je bouge un peu, aussitôt que quelqu'un bouge un peu, aussitôt qu'elle se révèle de différentes manières, elle dit « Tu m'aimes-tu? » Elle dit « Je suis là, j'existe, et tu vas-tu rester là à côté de moi? » Parler, c'est exister. Peu importe la manière dont on parle, on dit qu'on est là. C'est notre sève qui s'exprime comme ça. C'est Dieu en nous qui s'exprime comme ça, qui dit « j'existe ». Dieu passe par chacun de nous pour nous dire qu'il existe. Mais à chaque fois, Dieu prend le risque par nous de nous dire « acceptes-tu la sève qui est en moi et qui a cette couleur-là? » Parler, exister, c'est vouloir être en relation, mais en même temps, c'est un grand risque d'être rejeté. Et c'est pour ça que des gens, parfois, parlent peu. C'est pour ça que des gens, parfois, s'isolent dans un coin parce qu'elles ont peur d'exister. Ils ont peur d'être parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de s'approcher pour leur dire « Oui, tu existes. Oui, tu es important. » Et de ce sens-là, notre parole a un grand impact. Je disais l'autre fois, je suis arrivé dans un groupe, il y avait une Bible ouverte. Je suis arrivé sur un passage de l'Ecclésiaste qui dit « La guerre fait beaucoup de monde, fait beaucoup de morts, mais la langue en fait encore plus. » On peut être très blessant par une parole, comme on peut donner vie beaucoup par une parole. Dire « Je suis là, t'es important, je t'aime, je te remercie. » Des fois, je dis juste, entendre quelqu'un nous dire « Bonjour » avec un sourire, ça peut faire une journée. On peut vivre beaucoup d'heures sur un bonjour bien entendu et bien reçu. Parce qu'il y a eu une relation. Quand j'étais en paroisse, que je faisais l'accueil, on se disait ça souvent comme prêtre avant de faire l'accueil, on se disait « C'est important l'accueil parce que c'est peut-être pour des gens la seule fois de la semaine qu'ils vont voir quelqu'un les regarder et leur dire « Bonne journée ». Une parole entendue avec amour peut provoquer beaucoup de vie, tout comme l'inverse. On entre en relation par la parole. Et c'est dans nos paroles qu'on peut s'aimer les uns les autres et qu'on peut dire à l'autre toute la sève qui nous habite. La parole est l'écoute. Tantôt, je disais ça, comment c'est important l'écoute. Que ne pas écouter la parole de l'autre, c'est lui dire « c'est pas important, t'es pas important ». Peu importe ce que l'autre va nous dire, peu importe le fait qu'il répète, puis qu'il répète, puis qu'il répète les mêmes choses, la personne demeure importante. Ma mère commence à souffrir d'Alzheimer et elle nous fait répéter souvent. L'important, c'est pas qu'on répète 50 fois ou 100 fois ou 2 fois. L'important, c'est de le faire à chaque fois comme si c'était la première fois. Parce qu'elle ne se rappelle pas, elle, qu'elle me l'a demandé 10 fois. Pour elle, c'est la première fois. Ça demande de la patience, ça demande de se retenir, mais c'est là que la relation se passe. C'est comme ça que la personne entre en relation avec nous. C'est là où elle est. Écoutez. Écoutez avec patience, avec un regard d'amour et de tendresse. Jean Vanier dit que c'est la manière d'écouter quelqu'un qu'on lui donne sa valeur. La façon d'écouter quelqu'un équivaut à lui donner sa valeur. Écouter, c'est dire à l'autre, t'es important. Écouter, ça demande du temps. Quelqu'un disait même que pour écouter, il faut s'asseoir sur sa bienveillance. Être assis sur sa bienveillance. Pour que l'autre puisse sentir notre bienveillance, mais qu'il puisse sentir l'amour, la sève qui est en nous. On pourrait se lever et chanter « Je voudrais » quand vous voyez en vivre.
Thank you.
c'est bien beau. Et si on passe le temps à parler, parce que de toute façon on parle même si on ne dit pas de mots, Dieu aussi parle tout le temps. Dieu, c'est un grand parleur. Dieu s'est révélé par la parole, par le Christ, parole de Dieu, faite chair. Et Dieu continue à nous parler constamment. Et si Dieu parle, la meilleure façon d'entrer en relation avec lui, c'est de l'écouter. Demeurez en moi comme moi en vous. Dieu demeure en nous, par sa parole, par sa sève. Et Dieu demeure en nous pour que notre joie soit parfaite. Il y a deux manières, au moins, d'écouter Dieu. Si Dieu parle, la meilleure façon de l'écouter, c'est de se taire. Faire silence. C'est un défi de faire silence. En tout cas, pour moi, c'est un défi de faire silence. D'arriver chez moi, de fermer la radio, la TV, de fermer le journal, de fermer mes livres, c'est un défi. Mais je me rends compte que lorsque je risque le défi, je ne suis jamais perdant. Que Dieu parle, dans le silence. Parce que Dieu, c'est une brise légère. La parole de Dieu, c'est habituellement une brise légère qu'on ne peut entendre que si on prend le temps d'écouter attentivement la sève qui coule toute délicatement en nous. L'amour de Dieu, c'est un peu comme le battement de notre cœur. Notre cœur bat sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on y pense, ça se fait tout seul. Là, on peut s'arrêter, mettre notre main dans notre cou, sur notre poignet, et ressentir la vie qui bouge en nous, qui vibre en nous. Ça se fait sans qu'on y pense. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, c'est extraordinaire de constater que notre pouls est là. Et c'est comme ça, c'est grâce à ça qu'on constate qu'on est vivant. On a encore un pouls. Ben, l'amour de Dieu, la sève en nous, c'est comme notre cœur qui bat. Qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non, l'amour de Dieu, la sève, la sève est comme le sang qui coule en nous, ça circule, c'est là présent. Et on peut s'arrêter pour l'écouter, le sentir, être en communion avec cet amour qui est en nous, demeurer en lui comme lui en nous, le temps d'une communion, d'une relation, d'une nourriture à laquelle on s'abreuve, on se nourrit, pour se rendre compte qu'on est vivant, mais qu'on est vivant parce que Dieu nous recrée et nous crée à chaque instant. Cette sève coule en nous. S'arrêter pour s'y abreuver. On peut aussi entendre Dieu nous parler par l'autre. Si la parole de Dieu a pris la chair d'un être humain pour venir jusqu'à nous, c'est peut-être parce que la chair de l'autre, c'est peut-être pour que la chair de l'autre devienne parole. L'autre est pour nous parole de Dieu faite chair. Et si j'écoute sa chair, j'écoute Dieu. Si j'écoute ce qu'est l'autre, j'écoute Dieu me parler. Ça peut être un Dieu souffrant, ça peut être un Dieu joyeux, ça peut être un Dieu malade, ça peut être un Dieu heureux, plein d'actions de grâce. mais c'est sûr que Dieu est là devant nous. L'art, comme disait le médecin français dont je parlais tantôt, c'est de voir. Le Seigneur passe, tout le temps. Oseras-tu ouvrir ton cœur pour le voir? Écouter Dieu dans le cœur de l'autre, c'est souvent plus difficile que de l'écouter dans le silence. Mais comme le bon samaritain, s'arrêter, s'approcher et le voir. Entendre et voir Dieu présent à l'autre. Essayer d'entendre le battement de son cœur, de sentir le battement de son cœur, de voir au-delà de l'apparence pour aller toucher sa sève intérieure. C'est facile quand l'autre est gentil, fin, beau, aimable, mais quand l'autre nous tombe sur les nerfs, on a peut-être besoin d'être encore plus enraciné ou de demeurer dans Dieu pour le voir. D'où l'importance de la prière. Pour demeurer enraciné en lui, pour regarder le monde comme Dieu le regarde, pour l'écouter comme Dieu l'écoute, avec les yeux du cœur, comme dirait un chanteur québécois. Aujourd'hui, je vois la vie, j'entends la vie avec les yeux du cœur. Ou le renard qui dit au petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Regardez avec les yeux, mais branchés sur le cœur. Écoutez avec les oreilles, mais les oreilles branchées sur le cœur. Sur le cœur, sur la sève, sur l'amour de Dieu en nous. Un art à développer ou une grâce à demander, mais c'est certain que si on est branché sur la sève qui est en nous, sur la parole qui est en nous, notre regard et notre écoute vont être différents. J'aimerais dire un mot aussi d'un autre sens. Parler des yeux, des oreilles, la bouche, le toucher. Je pense à ça, puis je me disais, c'est étonnant, dans une journée, tout ce qu'on fait avec nos mains. On lave la vaisselle, on fait à manger, on fait les poussetages, on caresse avec nos mains, on embrasse avec nos mains, on touche avec nos mains, on donne des poignées de main. Nos mains, le toucher. Nos mains servent à toucher l'autre. Je me rappelle quand j'avais une vingtaine d'années, puis qu'il y avait des femmes qui voulaient m'embrasser, je venais raide comme une barre, je n'aimais pas ça. À 50 ans, je commence à aimer ça. Mais au début, je n'étais pas bien avec ça. C'est pas tout le monde qui est bien avec le toucher. Quand dans la vie, on a été mal touché, on a peur d'être touché. Quand on a été bien touché, c'est agréable d'être touché. Mais on ne sait jamais ce que le toucher provoque chez l'autre. Il y a des prêtres que je connais qui embrassent tout le monde à l'accueil. On leur a dit, fais attention. C'est pas parce que tu aimes ça que tout le monde aime ça. Ça peut être très chaleureux, mais ça peut être aussi très agressant si l'autre n'est pas à l'aise avec ça. Par un toucher, comme par le regard ou par la parole, on peut dire à l'autre, t'es important. À condition que le toucher soit fait avec beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse et beaucoup de respect. Une bonne poignée de main, une petite tape sur l'épaule, ça peut être un énorme geste d'amour envers quelqu'un qui ne s'est jamais senti important dans son corps, mais que là, finalement, on le touche. Rappelons-nous les épisodes de Jésus qui guérit les lépreux. Les lépreux, des gens impurs. C'est toujours un mot que je trouvais bizarre, ça, impurs. Impurs. Pas dignes d'être approchés. Impurs, ça fait comme Burke. On fuit ça, du monde impur. On pourrait être contaminé par ça, on pourrait être malade si on touche ça. On pourrait avoir des maladies psychiques ou physiques, je ne sais pas trop, mais on ne touche pas à ça du monde impur. On les mettait à part, on les mettait en dehors de la ville, pour que personne les touche, que personne s'approche. Il y avait un corps et un esprit impur. Que fait Jésus? Il s'approche et il les touche. Ça ne se faisait pas, ça, on ne touche pas du monde impur. Parce qu'on pourrait l'être humain. Et Jésus touche. Pas n'importe comment, mais avec une main et un corps plein d'amour et de tendresse. Puis il n'a peut-être pas touché longtemps, peut-être juste un petit peu. Mais on dit qu'une force sortait de lui. Cette force, c'est la sève de l'amour de Dieu qui sortait de lui. Bon, on n'est pas Jésus, mais on est tous habités par la sève. On est tous habités par l'amour. Et nos touchés peuvent donner de l'amour et éveiller la vie en l'autre, si l'autre, dans son corps, peut être blessé. L'importance de toucher aussi avec tendresse et amour. C'est comme ça qu'on peut s'aimer les uns les autres. Et c'est comme ça que la joie circule. Alors, s'aimer les uns les autres, être témoin de l'amour de Dieu, c'est comme on chantait tantôt. Que vos paroles soient claires, simples et sans embâche. Que vos paroles soient pleines d'amour et de vérité. Que vos regards soient remplis de tendresse et d'affection. Que vos touchés témoignent de la tendresse et de la délicatesse de Dieu. Parce que on est nourri et abreuvé et habité, parce qu'on demeure nous-mêmes dans l'amour de Dieu. Et si on demeure dans l'amour de Dieu, si on est collé à la vigne, si nos serments, si nos vies sont accrochées à la vigne qui est le Christ, on aura des fruits pour notre façon de regarder, de toucher, d'écouter les gens, des fruits d'amour et de tendresse. Ça se passe tout simplement comme ça, parce qu'on a un corps. C'est ça qui fait que des fois, je pense, des gens qui peuvent venir à Foi et Partage, ou à l'Arche, ou dans nos familles, puissent dire, c'est donc bien beau ce qui se passe ici. C'est donc bien beau ce qui se fait ici. On ne fait rien de particulier, de particulier. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'aimer les uns les autres par le temps qu'on prend pour s'écouter. Par le temps qu'on prend à aider quelqu'un à enlever son manteau, à enlever ses bottes. Par le temps qu'on prend à parler à quelqu'un. Par l'attention qu'on a en partageant ce qu'on a avec lui qui en a moins. C'est juste ça qu'on fait. On essaie juste de s'aimer les uns les autres. Il y a quelque chose qui transparaît de ça parce que Dieu habite notre être. Demandons ça peut-être aujourd'hui, cette grâce à Dieu, de demeurer vraiment branché sur lui, que nous puissions nous donner des temps de silence, de prière, pour que notre cœur batte de plus en plus de son amour, et que nous portions, comme dit la parole de Dieu, des fruits à travers notre façon de regarder, d'écouter, de toucher les gens. Donnons la grâce d'être des témoins, tout simples, de la sève, de l'amour de Dieu qui coule